Alors ce matin, je vous invite à tourner avec moi. On s'en va dans Jean, dans l'Évangile de Jean. J'espère que vous avez vos Bibles électroniques, papier, peu importe. Tournez avec moi dans Jean et je vais vous lire quelques versets pour se mettre en contexte. Dans Jean, une des choses fascinantes avec l'Évangile de Jean, c'est qu'il y a des grands thèmes qui reviennent presque en boucle à travers tout l'Évangile de Jean. Jean a un style d'écriture qui est très, très, très différent, admettons, du genre, du style de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul écrit souvent comme un grec avec des clauses, des sous-clauses, des phrases à n'en plus finir. Puis là, tu dis, OK, ça se rattache à quelle proposition? Mais en même temps, ça permet d'être très précis. Jean est souvent très, très, très imprécis. Il est dans des atmosphères, il fait des allusions, mais en même temps, lorsqu'on prend le temps de méditer ça, de remâcher ça, il y a de grandes vérités qui rentrent. C'est une approche qui ressemble plus à l'écriture hébraïque, ce qu'on trouve, admettons, dans les psaumes, vous allez trouver ça, dans les proverbes, dans les livres dans l'Ancien Testament, dans les livres poétiques. Alors, à la fin du chapitre 4, bien, Jésus vient de passer du temps avec la Samaritaine. Vous vous rappellerez peut-être, la semaine dernière, la semaine d'avant, on a vu être avec la Samaritaine. La Samaritaine a cru les paroles de Jésus. Elle est devenue un témoin. Elle est allée témoigner aux gens de son village. Puis les gens de son village ont demandé à Jésus de rester. Il est resté 2 jours encore. Et puis ils ont cru finalement, non plus à cause des paroles de la Samaritaine, mais à cause des paroles de Jésus. Fait qu'on a un thème qui est là, croire ce que Jésus dit pour connaître Jésus-Christ. On continue dans le même thème lorsqu'on arrive à la fin du chapitre 4, Jean 4, 46. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole de Jésus. Vous remarquez le thème? À la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportant cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda, « À quelle heure il s'était trouvé mieux ?» Et lui dire, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Et donc, on voit, on assiste ensemble à ce thème, cette idée de croire les paroles de Jésus, même sans voir les miracles. Et vous allez voir comment ça va se développer dans ce passage-là. Non seulement croire les paroles de Jésus, mais croire qui est Jésus à cause de ses paroles. On va l'ensemble dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu avec ce beau miracle de cet homme qui est à la piscine de Bethesda. Puis on va voir comment Jésus va se révéler qui il est dans toute sa beauté, sa majesté ensemble. Seigneur Jésus, on est assemblés pour te célébrer, pour te chanter des louanges, pour t'honorer, Seigneur. C'est ça que ton Église fait lorsqu'on se réunit, on te célèbre, on reconnaît qui tu es, on élève ton nom, on vient, Seigneur, contempler ta majesté, et j'ose dire ce matin, à la lumière de ce passage, contempler ta divinité, Seigneur. Seigneur, viens nous parler par ta parole, et que ta parole produise en nous, Seigneur, la vie éternelle. La vie éternelle, si nous ne sommes pas déjà chrétiens, Seigneur, que tes paroles deviennent vie en nous. Et que pour nous qui sommes chrétiens, Seigneur, que ça nous apporte vraiment à t'honorer, à te célébrer, à t'adorer, Seigneur, que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 5, les versets 1 à 24, dans la nouvelle édition de Genève. Jean 5. Les versets 1 à 24. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais est passé de la mort à la vie. »
Merci, Danny. Je vous amène dans un autre passage, très, très rapidement. Dans Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, Ésaïe, souvent, est appelé le cinquième évangile ou l'évangile dans l'Ancien Testament parce qu'il y a plein d'allusions à Jésus, plein de passages qui annoncent le Messie, le Sauveur, donc Jésus-Christ. Puis dans un de ces passages-là, il est mentionné qu'est-ce que Jésus va faire, qu'est-ce que le Messie va faire. Dans Ésaïe 35, au verset 4, on lit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. » « Voici notre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Jésus vient, puis il commence à guérir les malades. Les boiteux commencent à marcher, ils ramassent leur lit, ils s'en vont. L'évangile de Jean est l'évangile qui nous révèle de la manière la plus claire, la plus grandiose, la divinité de Christ. À travers la révélation de sa personne, on découvre plus qu'un sauveur. On découvre un Dieu sauveur. Pas simplement un Dieu au ciel qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés, mais un Dieu qui est venu lui-même dans la personne de son Fils, Dieu le Fils. Et Jean commence son évangile en nous pointant dans cette direction-là, nous apportant une révélation sur la personne de Dieu qui n'a jamais été aussi claire que ça dans toute la Bible. C'est vraiment l'évangile de Jean qui premièrement établit de manière aussi limpide la divinité de Jésus-Christ. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus est infiniment plus qu'un grand sage ou un prophète. Vous m'avez souvent entendu dire ça. Jésus est infiniment plus qu'un grand sage ou un prophète. Il est Dieu, le Fils, qui crée la vie éternelle. Et ce qu'on veut faire, c'est le connaître et l'adorer. Et ce matin, on est réunis en Église pour le connaître davantage et l'adorer. Voici mon premier point ce matin. Dieu travaille toujours, même le samedi. Dieu travaille toujours, même le samedi. C'est vraiment intéressant ce qui se passe. Donc, Jésus arrive à Cana, il arrive à Capernaum, il va faire un miracle. Il y a un homme qui est là, qui est handicapé depuis longtemps. Puis, bon, il y avait quelque chose de spécial qui se passait avec cette piscine-là. Dieu faisait des miracles de temps en temps à cette piscine-là. Et évidemment, lui n'était jamais le premier à pouvoir aller dans l'eau, donc il n'était jamais guéri. Faites juste remarquer le fait que personne n'a dit à Jésus la condition de cet homme-là. D'accord? Je reviens là-dessus, gardez ça en tête. Personne n'a dit à Jésus c'était quoi la condition de cet homme-là. Bien sûr, tout le monde pouvait voir qu'il était handicapé, mais personne n'a dit à Jésus que ça faisait longtemps qu'il attendait. En fait, cet homme-là ne s'est pas adressé à Jésus. Premièrement, c'est Jésus qui va le faire. Mais on lit au verset 9 et 10, « Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Le sabbat, vous le savez probablement, c'est un jour de repos pour les Juifs. C'est un jour que Dieu avait institué pour se consacrer à Dieu, pour se reposer, pour adorer Dieu. Et les Juifs, les autorités juives, les grands docteurs de la Bible, dans leur zèle, avaient découpé, avaient développé un paquet de règles autour du sabbat qui faisaient qu'on avait des grandes questions comme, on l'a déjà dit souvent même à la blague, est-ce qu'on peut manger l'œuf qu'une poule a pondu le jour du sabbat puisque la poule a travaillé? Fait que, on avait des grandes questions théologiques comme ça à l'époque. On coupait les cheveux en quatre en essayant de régler des questions sur le sabbat. Et là, il voit un homme qui est handicapé depuis fort longtemps. Tout d'un coup, il est guéri. Jésus lui dit, prends ton lit, rentre chez toi. Il prend son lit, on l'arrête, contravention. Il y a quelqu'un qui se prend avec un calepin de notes, qui dit, hop, 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 hop. On ne respecte pas les règles ici. On est le jour du sabbat, on se promène avec son lit. On n'a pas le droit de se promener avec son lit le jour du sabbat. Alors, qu'est-ce qu'il répond au verset 11? Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il était guéri, il était content, il est parti, ça finit là. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. » De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Marche avec Dieu, repens-toi, reste près de Dieu maintenant. Les rabbins juifs croyaient qu'il y avait une seule personne qui travaillait pendant le sabbat. Il y avait une seule personne dans l'univers qui avait le droit de travailler le jour du sabbat. Puis ça tombe sous le sens, c'est Dieu. Donc, les rabbins juifs comprenaient, parce que l'Ancien Testament nous enseigne que Dieu soutient l'univers, que même le jour du sabbat, même si les Écritures nous disent qu'il s'était reposé le septième jour, bien, son repos n'allait pas jusqu'à arrêter de soutenir l'univers. C'est Dieu qui, par sa volonté, soutient toute chose. Les Écritures nous apprennent que Dieu est actif dans l'univers. Non, ce n'est pas simplement un Dieu qui a créé l'univers et qui a dit... « Ciao, bye, on va se revoir dans 6-7 000 ans, je vais aller faire un tour, puis je reviens. » Non, les Écritures nous disent que Dieu a créé, puis que Dieu soutient l'existence de toutes choses. Et si Dieu se retirait de l'univers, l'univers cesserait d'être, littéralement. Et donc, pour les rabbins juifs, il y a un seul être dans tout l'univers qui travaille, c'était pas discuté, c'était reconnu, et c'est la personne de Dieu. C'est important d'avoir ce détail-là pour comprendre la conversation qui va s'engager entre Jésus et les autorités juives. Parce que là, eux autres, ils disent, « Non, 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 ça ne marche pas, tu ne peux pas faire ça le jour du sabbat, c'est inacceptable. » Maintenant, regardez les versets 16 à 18. « C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. » Donc, ils en avaient déjà contre lui parce qu'il était en train de guérir des malades le jour du sabbat. On ne doit pas faire ça. Tu reviendras demain, de toute façon, les malades vont être encore là. Mais pas de problème, les malades, il y en a tout le temps. Pause, demain, Dieu nous a commandé de se reposer. Maintenant, pour eux, ils savent qu'il y a un seul être qui ne se repose pas. C'est Dieu. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus aurait pu décider, comme il fait à d'autres moments, de clarifier c'était quoi le sabbat. Puis de dire, écoutez, là, les gars, ça n'a pas d'allure, votre affaire, vous coupez les cheveux en quatre, c'est, vous n'êtes pas équilibré, votre théologie n'est pas bonne, votre théologie du sabbat n'est pas bonne. C'est pas ça qu'il fait. Il va les engager. Attendez un petit peu, peut-être que vous n'avez pas compris qui je suis en réalité. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu. Je l'ai déjà dit à l'Assemblée, c'est difficile pour nous d'apprécier, de comprendre l'ampleur de la déclaration de Jésus lorsqu'il dit « Mon Père agit, moi aussi j'agis à présent. » Pour les Juifs, l'idée que Dieu serait ton Père à toi personnellement, c'était étranger pour eux. Dieu, c'est le Père de la nation d'Israël. Mais Dieu, c'est l'être trois fois saint qui est distant de nous. On n'a pas accès à cette intimité-là. Et la vision qu'on a en Occident de la personne de Dieu, lorsqu'on va dans une église, que ce soit catholique, peu importe, on a l'idée que Dieu est très près de nous. Cette idée-là vient de l'Évangile. Cette idée-là nous vient de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a une vision d'un Dieu qui est très près de nous, qui est intime. Même ceux qui ne le connaissent pas vraiment ont une vision qui est tellement près d'eux que finalement, c'est comme une espèce de guichet automatique, tu sais. Un peu comme un adolescent à la maison qui ne fait pas sa vaisselle puis il se dit ah, « de toute façon, mes parents vont le faire » ou « ils ne se ramassent pas, de toute façon, ils vont le faire. Tu » sais, « Mon père, c'est à ça qu'il sert. Il va me ramasser, il va s'occuper de moi. » Mais cette distance-là, cette proximité-là, n'existait pas dans la vision que les gens avaient de Dieu. En fait, tantôt, je vais faire allusion à l'islam parce qu'il y a des choses terribles qui se passent, non pas avec les musulmans en France, mais avec des musulmans très radicaux en France. Vous avez vu ça comme moi dans les nouvelles. Mais dans le Coran, la vision de Dieu, c'est une vision qui est très, très, très distante. Ils appellent leur Dieu Allah et Allah n'est pas près de toi comme le Dieu de Jésus-Christ. Et donc, lorsque les Juifs entendent ça, dès qu'ils l'appellent son Père, ils comprennent qu'il est en train de dire, il y a une intimité entre Dieu et moi que les hommes ne connaissent pas. C'est important de réaliser ça parce que plus tard, il va nous dire que c'est notre Père. Ça va devenir notre Père à nous. Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Il dit, « Écoutez, c'est le jour du sabbat. Vous savez que Dieu est toujours en travail le jour du sabbat. Dieu est en train de soutenir l'univers. Les oiseaux vont manger aujourd'hui. Tout va continuer. Vous avez encore de l'oxygène aujourd'hui. Donc, mon Père est à l'œuvre. Mon Père soutient toutes choses. Mon Père prend soin actuellement, mais moi aussi. Et comme mon Père prend soin des oiseaux, moi j'ai vu un homme qui était malade, je l'ai guéri. Je l'ai guéri. Je fais comme mon Père. Mon Père donne la vie, je donne la vie. Mon Père sauve, mon Père prend soin, je sauve, je prends soin. » Jésus n'entre pas dans leur débat sur est-ce que c'est acceptable ou non de faire ça le jour du sabbat. Il dit, « Ben, vous avez raison. » Vous avez raison que c'est spécial ce que je suis en train de faire le jour du sabbat, mais dans le fond, c'est que je suis spécial. J'agis comme mon Père. Et donc, plutôt que de les contredire lorsqu'eux autres ils disent « attends un petit peu », il est en train de nous dire qu'il est l'égal de Dieu, Jésus va rentrer dans la conversation puis il va dire « écoutez, c'est vous qui le dites », mais en même temps, il va faire la preuve. Jésus fait souvent ça. Il va dire « mais c'est toi qui l'as dit ». Oui, mais c'est toi qui en as fait la preuve, Jésus. Et donc, c'est ça qu'il va faire comme argument ici. Il va démontrer justement qu'il est Dieu le Fils. Il est en train de révéler sa personne. Il est en train de révéler sa divinité. On a un écho à Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plutôt que de contredire les Juifs qui disent, « Attends un peu, il est en train de dire qu'il est l'égal de Dieu », Jésus va juste leur dire, « Regardez, c'est vous qui tirez la conclusion. » Vous avez raison, Dieu travaille le jour du sabbat, mais moi aussi, je fais comme mon Père. Puis il engage la conversation avec eux en allant encore plus loin. Il leur dit au verset 19, « Jésus reprit donc la parole, « en vérité, je vous le dis, le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Écoutez ça. « Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Il est en train de dire qu'il est l'égal de Dieu. Tout ce que Dieu fait, moi je le fais. Pensez-y deux secondes. Tout ce que Dieu fait, moi je le fais. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui fait tout ce que Dieu fait? Est-ce que vous connaissez un autre prophète que Jésus qui fait tout ce que Dieu fait? Puis Jésus le démontre en guérissant les malades, en guérissant les boiteux, bientôt en ressuscitant les morts. C'est intéressant, on a vraiment une fenêtre dans la Sainte Trinité. Le christianisme a pondu ce mot-là parce qu'il n'est pas dans la Bible. Sainte Trinité, trois unités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans leur communion, se révèlent progressivement à travers les Écritures. Puis c'est comme si on est invité dans leur maison. On est invité à la table de Dieu, puis on assiste à un repas de famille. C'est littéralement ça qu'on est en train. Il se révèle à nous, il nous invite, tellement qu'il va nous inviter à entrer dans sa famille. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que tout ce que le Père fait, il le montre au Fils. En même temps, il n'est pas dit que le Père fait tout ce que le Fils fait. Non, cet ordre-là au sein de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, est en train tranquillement de se définir. Mais je suis en train de découvrir un être qui est plus grand que nature, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qu'on adore. Maintenant, je voudrais faire une petite application. Tantôt, j'ai dit, l'homme qui est à la piscine, il n'a pas fait appel à Jésus. Puis personne n'a dit à Jésus, « Hey, ce gars-là, écoute, ça serait vraiment cool si tu ferais quelque chose pour lui, ça fait longtemps qu'il est là. » Jésus n'a pas vraiment besoin qu'on lui dise ce qui se passe, parce qu'il est Dieu. Il arrive là, il sait que cet homme-là souffre, puis il s'en va vers lui, et puis il guérit. De la même manière que notre Père qui est dans les cieux nourrit les petits oiseaux, les animaux, prend soin d'eux. De la même manière que notre Père qui est dans les cieux connaît tout ce dont on a besoin, Christ sait tout ce dont on a besoin. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Il connaît tous nos besoins. Et même avant que cet homme-là demande, il est déjà en train de prendre soin de lui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui traîne comme requête, comme souffrance dans ta vie, où il y a quelque chose qui est là, puis tu dis, mais jusqu'à quand, Seigneur? Non seulement ton Père qui est dans les cieux le sait, mais ton frère, ton Seigneur, ton Sauveur, Jésus-Christ, le sait. Et non seulement il prend soin des petits oiseaux, mais il est venu, il a pris soin de cet homme-là qui était malade. Parce que c'est notre Seigneur. Et il connaît tous nos besoins. Il est au contrôle. Il travaille toujours. Il ne se repose jamais. Même pas le samedi, même pas le jour du sabbat. Cette semaine, cette pensée-là me réconfortait. Je considérais tout ce qui se passe sur la terre puis combien il y a de troubles actuellement sur la terre. Puis j'allais dans l'adoration puis je disais, Seigneur, tu travailles tout le temps. Tu ne te reposes pas, tu es au contrôle, tu veilles. Tu agis actuellement. Tu n'es pas parti en vacances. Tu règnes, tu entends nos prières. Tu es présent, tu vois la souffrance des hommes. Comme tu as vu cet homme-là qui n'a même pas eu besoin de te parler, tu savais qu'il souffrait, tu es allé vers lui, tu as pris soin de lui. Pourquoi est-ce qu'il a eu à souffrir aussi longtemps? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas guéri plus tôt? Je n'ai pas la réponse. Mais je sais une chose. Mon Seigneur savait qu'il souffrait. Mon Seigneur avait compassion de lui. Et il est toujours à l'œuvre. Il est toujours en train d'agir. Actuellement, Jésus-Christ est en train d'agir. Il agit ici, dans nos cœurs. Il agit dans le monde, partout. Il sauve des âmes. Il gouverne toutes choses. Il domine sur les rois de la terre. Je n'ai pas à avoir un cœur inquiet, troublé. Mon Sauveur, mon Seigneur, agit. Comme son Père agit. Ça m'a tellement fait du bien de méditer là-dessus cette semaine. Dieu travaille toujours, même le jour du sabbat, Dieu travaille parce qu'il soutient l'univers, il garde l'univers. Et si Dieu travaille même le jour du sabbat, bien Dieu, le Fils, est occupé à redonner la santé à cet homme le jour du sabbat. Puis là, Jésus nous révèle qui il est. Quelle sorte de rapport on devrait avoir avec lui. celui qui honore le Fils. Le Fils donne la vie et juge le monde. Au verset 21-22, on lit, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Écoutez, c'est sûr qu'il voulait le tuer. C'est certain qu'il voulait le tuer. Tu ne pouvais pas être un Juif qui comprenait pas la Trinité, un Juif qui pensait tout connaître des Écritures, puis avoir cette personne-là qui apparaît, qui fait des miracles, qui défait toutes les conventions, qui est en train de dire, vous comprenez rien à la Bible, vous essayez d'enseigner, mais vous comprenez rien à la Bible. Puis, by the way, tout ce que Dieu fait, moi, je le fais. Essayez de comprendre. C'est énorme ce qu'il dit sur lui-même. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il vient de redonner la vie aux jambes de cet homme-là. Il vient de redonner la santé au fils du soldat. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est vraiment intéressant. Dieu confie à son Fils de juger le monde, puis de donner la vie à qui il veut. Maintenant, on est au début de l'Évangile de Jean. Nous, pour la majorité d'entre nous, on connaît l'Évangile de Jean. Et donc, on sait que bientôt, il va aller mourir sur la croix pour nos péchés. Il va être fait péché. Et donc, il va donner la vie à qui il veut et il va juger. Il va juger tous ceux qui le rejettent, qui décident de ne pas l'honorer. Et il va donner la vie à qui il veut. Parce que c'est par lui qu'on a la vie. C'est en croyant en lui qu'on a la vie. Celui qui honore le Fils honore le Père. Ceux qui vont vous dire que Jésus est juste un prophète comme les autres ou juste quelqu'un qui nous fait connaître des choses sur Dieu n'ont vraiment pas compris qui était Jésus-Christ. Ceux qui vous disent que non, toutes les religions de la terre se valent n'ont pas compris qui était Jésus-Christ. Peut-être que ce n'est pas méchamment qu'ils disent ça, peut-être que c'est par ignorance, mais ils n'ont pas saisi qui est Christ. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Si tu n'honores pas Christ, tu n'honores pas Dieu le Père. Si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ agit comme son Père agit, tu n'honores pas le Père. Si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ possède tout jugement, tu n'honores pas le Père, tu ne connais pas Dieu. Si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est celui qui donne la vie, tu ne connais pas Dieu, tu n'honores pas le Père. Le christianisme n'est pas une religion parmi d'autres religions. Ce n'est pas vrai. Jésus-Christ n'est pas un prophète parmi d'autres prophètes. Il est Dieu, le Fils incarné, qui fait tout ce que le Père fait et à qui Dieu a confié jugement et vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En d'autres mots, celui qui reçoit mes paroles et qui croit que c'est bien Dieu qui m'a envoyé, que je viens vraiment de lui, celui-là est passé de la mort à la vie. Au jour du jugement, déjà, il fait partie de mes enfants. En fait, il est déjà entré dans la vie. Puis je veux faire un commentaire qui est un peu délicat ce matin avant d'arriver à mon dernier point. Parce que ça m'a frappé quand j'étais en train d'étudier le passage. Fait que je vais faire un commentaire par rapport aux islamistes. Et j'ai vraiment besoin que vous soyez attentifs parce que je ne mets pas tout le monde dans le même panier. C'est très important. J'ai des amis musulmans qui sont des gens très gentils, très respectueux, très pacifiques. Je ne suis pas en train de mettre tout l'islam dans le même panier. Mais il y a une distinction importante ici entre la révélation de Dieu dans le Coran puis la révélation de Dieu dans l'Évangile. Voyez-vous, pour moi comme chrétien, j'honore Jésus-Christ en l'adorant. J'honore Jésus-Christ en le confessant de ma bouche. Je crois ses paroles puis je l'honore en l'adorant et je n'ai pas à défendre son honneur. Parce que c'est lui qui juge les hommes. Maintenant, les extrémistes Et soit dit en passant, il y a des radicaux aussi qui se réclament du christianisme. On a le privilège de travailler avec la police à Longueuil, puis dernièrement, on a l'opportunité possiblement de s'asseoir avec un jeune homme qui a mal compris l'Évangile puis qui est en train de se radicaliser. Et donc, ça arrive là aussi. Mais les islamistes qui ont fait ces horreurs-là actuellement en France pensent qu'ils le font pour défendre l'honneur de leur Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que je prends le temps d'aller là? C'est parce que si tu veux témoigner à des amis au travail, si tu veux témoigner à des collègues, des fois, ce qu'on va dire, c'est « regarde les religions, ce que ça donne ». On l'a vu en France, regarde ce que ça donne. Et moi, je veux vous encourager à ne pas reculer, à ne pas vous taire, à dire « non, attends un peu, tu ne comprends pas, je suis chrétien, je n'ai pas à défendre l'honneur de mon Seigneur. Je vais l'honorer en parlant de lui, mais tu peux le rejeter, ça c'est ton choix. Moi, je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit. Je crois qu'un jour, tu vas devoir rendre des comptes devant lui, parce que c'est à lui que Dieu a remis jugement et vie. » Et donc, moi, je veux l'honorer en parlant de lui. Je veux l'honorer quand je me réunis avec les frères et sœurs le dimanche, puis on est en train de le célébrer, puis on chante des louanges. Je veux l'honorer par mon style de vie. Je veux l'honorer en marchant à sa suite. Mais je n'ai pas à défendre son honneur, parce qu'il est assez grand pour se défendre lui-même. Et pourquoi est-ce que je prends le temps de le dire? C'est parce que vous devez avoir le courage de présenter ça. Acceptez pas cet amalgame-là où on met tout dans le même bateau. Jésus-Christ n'est pas Mahomet et Dieu n'est pas Allah. Malheureusement, si vous pensez ça, vous vous trompez. Parce que le Dieu du Coran ne ressemble à rien à Jésus-Christ, à Dieu le Fils et à Dieu le Père. Et comme je vous dis, je ne veux pas être mal compris, je ne voudrais pas être mal cité, je ne suis pas en train de mettre tous les musulmans dans le même panier comme si c'était tous des radicaux, loin de là. La majorité des gens qui viennent ici fuient souvent des régimes où ils subissaient justement du fondamentalisme très radical. Et donc, j'ai des amis qui sont musulmans, qui sont très gentils, très pacifiques, même si on a des profonds désaccords théologiques. Puis j'aime ça discuter avec eux de qui est Dieu. Alors, nous honorons le Père en honorant Christ, en élevant Christ dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, dans toute sa majesté. Et ne pas honorer Christ revient à ne pas honorer Dieu. C'est souvent là que mes conversations avec mes amis musulmans s'arrêtent, parce qu'ils trouvent que j'accorde trop d'honneur à Jésus-Christ. On change de sujet. On change de sujet à ce moment-là. Et pour voir la beauté de Christ, pour voir sa grandeur, il faut croire ses paroles. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant pendant que, rapidement, je passe au troisième point. Je l'ai dit, à partir de la Samaritaine, il y a un thème qui vient, c'est « qu'est-ce que tu vas faire des paroles de Jésus? » Cette dame-là a bu les paroles de Christ, puis elle est devenue chrétienne. Ça l'a transformée en témoin. Elle s'est mise à annoncer Jésus-Christ. D'autres ont entendu ses paroles pour enfin entendre les paroles de Jésus et sont devenus chrétiens. À cet officier, Jésus va dire « vous avez besoin de voir des miracles pour croire. » Effectivement, il voit le miracle, puis il croit. Mais plus tard, Jésus va dire « heureux si tu crois sans avoir vu les miracles ». Alors, ce que je vous dis ce matin, c'est que pour découvrir qui est Jésus-Christ, il faut croire dans ses paroles. Puis là, il y a un miracle qui va se produire en toi. Tu vas en venir à connaître Jésus-Christ personnellement. Ou tu seras de ceux qui vont attendre toute leur vie que Dieu fasse un miracle devant eux. Mais ça ne garantit pas que tu vas croire en lui. Et donc, je vous invite ce matin, dans vos cœurs, dans notre cœur, à honorer Christ, à reconnaître qu'il est Dieu le Fils. La Sainte Trinité est en train de nous être révélée à travers l'Évangile de Jean. Et notre Seigneur, mon Sauveur, règne sur toute chose. Il connaît mes besoins, il voit ce que j'ai, il est en train d'agir, il est à l'œuvre. Un jour, il va revenir pour juger. Mais si déjà je crois en lui, j'ai la vie éternelle. Je suis entré dans la vie éternelle. Ce matin, vous avez reçu quelque chose de spécial. Il y en a qui vont avoir un drôle de feeling. Je vous invite à prendre vos petits cups. Si vous les avez pris, on va prendre le repas du Seigneur. Ça fait des mois qu'on n'a pas pris le repas du Seigneur. Ceux qui sont allés à l'Église catholique, je veux déjà m'excuser pour vous. Vous allez avoir un drôle de feeling, je vous avertis. Il y a comme un mini, je ne vais pas sacrer, hostie, juste ici, d'accord? Je vais l'expliquer une fois. Ce ne sera pas un running gag dans l'Église, s'il vous plaît. Michel est bon avec les running gags, moi aussi. Fait que retiens-moi, Michel, si je retourne là. Donc, ce n'est pas un hostie. C'est simple, je vous explique la technique une fois, on ne va pas faire ça à chaque fois. Sur le dessus, vous avez une petite pellicule de plastique qui vous permet de prendre le petit pain. Et vous pouvez ensuite ouvrir votre coupe. Incroyable, il aurait fallu faire une vidéo. Sylvie, la prochaine fois, c'est toi qui fais la vidéo avec ça. Sans l'ourson. Voilà. C'est bon de prendre ensemble le repas du Seigneur lorsqu'on est dans un passage comme celui-là, où on voit vraiment la grandeur de Christ. Et si Jésus se démarque de tous les prophètes, de tous les enseignants, c'est aussi parce que Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous. Il est venu verser son sang. Il y en a qui sont en train de se battre avec leur coupe, vous allez y arriver, vous êtes capables. Pour nous, c'est un moment solennel parce que la coupe représente le sang que Jésus a versé sur la croix. Et le pain représente son corps qui a été brisé. Et nous croyons profondément que c'est à cause de ce sacrifice sur la croix que nos péchés sont pardonnés. Le Seigneur nous a donné ce mémorial-là. Pour nous, c'est un mémorial, hein? On ne pense pas que c'est vraiment le corps du Christ. Non, on pense que c'est un pain qui représente son corps qui a été brisé. Et on ne pense pas que c'est vraiment du sang, mais que ça représente son sang versé. Et on se rappelle en faisant ça le sacrifice qu'il a fait pour nous. Alors, on va prier, Michel, Julie, moi, on va prier. On va adorer notre Seigneur, puis ensuite, on va prendre les éléments.
Prions. Oui, Seigneur, Tu es Dieu. Tu connais nos pensées, nos cœurs, même tu connais notre intérieur encore mieux que nous-mêmes. Tu y as fait ton temple, Jésus. On veut dire, ce matin, après une longue absence, où on se rappelait cette croix, on veut te dire, Seigneur, qu'on t'aime. Un peu comme à l'image de Pierre, on ne pourra jamais t'aimer autant que tu nous aimes, mais on est juste ébloui devant ton amour et on veut que rien ne vienne faire obstacle à notre obéissance envers toi. On te prie en ce moment même de nous révéler s'il y a quelque chose qui distorsionne la relation avec toi et on veut le mettre au pied de la croix, Seigneur. On veut abandonner tout ce qui peut être un obstacle à toi dans notre cœur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton grand amour. Merci pour ce moment qu'on passe en Église aujourd'hui. On est ta famille. Merci, Seigneur, parce que tu as versé ton sang pour nous. Et c'est en ton nom qu'on prie. Amen.
Ah oui, Seigneur, avec un geste aussi simple que de manger et de boire, Seigneur, tu nous as donné un si grand signe, tu sais, de ton sacrifice. C'est un petit geste qu'on a ensemble, qu'on peut vraiment se rassembler ce matin, qu'on partage ensemble. C'est tellement précieux. Avec tous les mois qu'on a passés, Seigneur, des fois être loin les uns des autres. Seigneur, c'est un geste de rassemblement qu'on a ensemble. C'est un geste de soumission qu'on a envers toi. Et un geste qu'on se rappelle vraiment avec tout notre cœur, Seigneur, le sacrifice que tu as fait pour nous. Comment tu nous aimes, malgré tout. Merci, Seigneur, d'être là tout le temps, d'être toujours dans nos cœurs, avec nous. Merci pour ce grand sacrifice. Seigneur, si on a des manquements dans nos cœurs, Seigneur, on veut remettre ça au pied de la croix ce matin. On veut sortir d'ici avec le cœur pur, avec un cœur plein de joie, Seigneur, d'avoir chanté tes louanges, de t'avoir honoré ce matin. Amen.
merci pour cette coupe, Seigneur. Merci pour ton amour, ton sacrifice, ta grâce. Cette assurance que nous avons maintenant de pouvoir t'appeler papa, de pouvoir t'appeler père, notre père, parce que tu es notre frère. Toi, notre sauveur, toi, notre Seigneur, toi, notre Dieu. Seigneur, tu nous as fait entrer dans ta famille par ce sacrifice que tu as fait à la croix. Tu es ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Ton Père a agréé, il a accepté ton sacrifice pour nous. Tu es vie, Seigneur, et ton esprit habite en nous. Seigneur, c'est comme des adorateurs en esprit et en vérité qu'on vient dans ta présence ce matin pour te célébrer par nos chants, par nos louanges, mais aussi, Seigneur, par ce simple mémorial. On veut se rappeler ton sacrifice pour nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.